français. J'ai grandi à Lafayette et le français, c'était la langue maternelle de ma grand-mère maternelle. Donc, j'ai entendu le français comme ça. Mais je dirais que je m'intéresse aux histoires et aux contes, si on peut dire, depuis longtemps. Et mon père, il aimait bien raconter des contes de son enfance et c'était comme souvent comme des contes forts qui changeaient à chaque reprise, qui devenaient plus exagérés et plus incroyables. C'était dans son enfance, dans la paroisse des Avoyelles. Et j'ai toujours été fasciné.
Folkloriste et spécialiste de littérature et de culture populaire. Le professeur Nathan Rabalais occupe la chaire Joseph P. Montiel d'études francophones à l'Université de Louisiane à Lafayette, où il enseigne au département des langues modernes.
C'était un petit peu comme je conçois l'univers littéraire d'Anthony Maillet, par exemple. Il y avait des personnages, ses amis d'enfance, que je ne connaissais pas, mais je pouvais les imaginer comme ça. C'était comme une liste de personnages qu'on avait en tête. Et donc, j'aime beaucoup ce passe-temps et cette tradition de raconter des contes.
Je m'empresse d'ajouter que c'est un ami et proche collaborateur. En janvier 2022, j'ai pris rendez-vous avec Nathan pour discuter de son nouveau livre, Folklore Figures of French and Creole Louisiana, ou Figures folkloriques de la Louisiane française et créole, paru chez LSU Press en mars de l'an précédent. Il était aussi question de comprendre d'où lui vient son intérêt pour la tradition orale de sa Louisiane natale.
Ce n'est pas forcément évident en lisant un conte ou deux, quoiqu'on remarque facilement la présence des personnages, souvent des animaux qui sont petits, comme le lapin par exemple, qui sont aussi rusés. Mais je pense que c'est vraiment en faisant des comparaisons d'une cinquantaine ou d'une centaine de variantes louisianaises, créoles et ouest-africaines qu'on voit comment un conte avec majoritairement la même structure, le même récit, peut avoir une leçon totalement différente à la fin.
Vous écoutez le balado Acadiversité, un projet du studio NS de l'Observatoire Nord-Sud de l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Ici le professeur Clint Bruce, titulaire de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales, ou CREACT, et directeur de l'Observatoire Nord-Sud. L'Acadie, berceau d'un peuple francophone né à l'époque de la colonisation européenne de l'Amérique. L'Acadie, une diaspora forgée dans la violence du Grand Dérangement, c'est-à-dire l'exil du peuple acadien au 18e siècle. L'Acadie, une collectivité moderne évoluant au rythme de la mondialisation et de la diversité culturelle. C'est l'intersection de toutes ces Acadies que nous explorons dans le balado Acadiversité. En privilégiant une conception diasporique de l'Acadie, il s'agit forcément d'intégrer non seulement la communauté cadienne de la Louisiane, mais aussi l'expérience et les influences de la population afro-créole, élément fondateur et fondamental de la francophonie louisianaise. Ces influences, notre invité Nathan Rabalais les examine dans ses recherches, ainsi que dans un film documentaire sur l'identité ethnoculturelle « Finding Cajun », sorti en 2018. Aujourd'hui, les traumatismes collectifs dans le folklore de la Louisiane francophone, ou dire de Nathan Rabalais. Enregistré sur le campus de l'Université de Louisiane à Lafayette, cet entretien se focalise sur deux aspects du patrimoine oral, à savoir les traces de l'esclavage, d'une part, et la discrimination linguistique et culturelle subie par les francophones louisianais, d'autre part. À noter que ce sixième épisode d'Acadiversité inaugure un nouveau volet de notre balado, au dire de, une série de conversations avec des chercheurs universitaires et avec des actrices ou acteurs du milieu.
C'était après, quand j'ai commencé mes études en études francophones, parce que j'avais fait des études en musique auparavant, je m'intéressais tout de suite à la tradition orale et aux contes que j'étais en train de découvrir. Et je prenais des cours avec Barry Ancelet, qui est le grand spécialiste de la tradition orale ici. Et j'ai découvert la richesse des archives et des transcriptions. C'était surtout à partir de là, dans la chanson et dans le conte, que je m'intéressais aux variations, aux variétés de ces mêmes contes et de ces mêmes types. Avant, j'avais jamais vu, par exemple, le catalogue Anne Thompson. Et donc, j'ai découvert tout un domaine qui m'a fasciné.
Peux-tu expliquer à quoi sert cet ouvrage qui est le catalogue Anne Thompson pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement les études folkloriques?
C'est un outil très important qui date du début du 20e siècle à peu près. C'est un inventaire de tous les contes types, donc des structures qui sont très répandues, qui sont attestées dans beaucoup de régions à travers le monde. Ça a été mis à jour, par exemple, aujourd'hui, on a plutôt tendance à utiliser le catalogue Anne Thompson Uther. À l'époque, au début du 20e siècle, les chercheurs en ethnologie, les folkloristes s'intéressaient beaucoup à ce qu'on peut appeler en allemand un « Urform », la forme originale, l'essence du conte. Quelle était la première forme du Cendrillon, par exemple, ou la Belle au bois dormant? On savait qu'il y avait beaucoup de variations à travers toutes ces différentes régions, mais comment est-ce que ça a commencé? Et bien sûr, au fil des années, on a compris que c'était inutile, cette réflexion-là. On va jamais trouver la première source d'un conte. Et donc, depuis bien des décennies maintenant, beaucoup de folkloristes travaillent plutôt dans une vision de comparaison, donc des analyses comparatives. C'est ce que moi je fais aussi dans mes travaux. Donc, on s'intéresse pas à trouver la forme originale d'un conte, mais comment est-ce qu'un conte peut varier d'une région à l'autre et qu'est-ce que ça nous dit? Pourquoi il y a ces adaptations-là? Qu'est-ce que ça dit de ces communautés qu'il y a ces changements particuliers?
Nathan, tu es l'auteur d'un très beau livre qui s'intitule « Folklore Figures of French and Creole Louisiana », orné de très beaux dessins d'un artiste louisianais, Jonathan Maillet. Jusqu'où remonte la recherche qui se trouve dans ce livre et qu'est-ce que tu essaies de faire dans cet ouvrage?
J'ai commencé ce projet, je dirais, quand j'étais à l'Université Tulane, quand je faisais mon doctorat. Ça, c'était peut-être en 2012. Je m'intéressais premièrement aux chansons. Je m'intéressais à certaines formes et certaines structures, certains modèles qu'on trouve dans la chanson cajun et des chansons médiévales. C'était un peu étrange comme projet, mais très rapidement, j'ai changé de direction et j'ai commencé ce projet qui est devenu mon projet de thèse sur la tradition orale en Louisiane, la tradition orale francophone et créolophone. Dès le début, c'était un travail comparatif. Même à cette époque-là, même en 2010, j'étais conscient de l'existence des fonds à Poitiers, notamment le fonds Michel Vallière, Barry Installé m'avait parlé de ces fonds. Et donc, je voulais faire une sorte de travail comparatif des contes en Acadie, en Afrique, de l'Ouest surtout, des Antilles et du Grand Ouest de la France aussi. Donc, la vision de base remonte, oui, je dirais, à 2012, 2013. J'ai soutenu ma thèse en 2015 et donc ensuite, j'ai commencé à revenir à ce projet. Donc, il y a deux ou trois chapitres qui contiennent des contes que j'avais déjà analysés dans ma thèse, que j'approche différemment dans ce livre. Mais tout le reste, la majorité du livre, c'est du travail que j'ai fait après la thèse.
Qu'est-ce que le titre veut dire, Folklore Figures, figures folkloriques de la Louisiane française et créole?
C'est une bonne question, parce que c'est difficile de parler de ces étiquettes, n'est-ce pas? J'ai choisi le mot « figure » parce que il y a des êtres qui ne sont pas forcément des personnages. Et donc « figure », c'est un terme un peu plus global. Il y a par exemple le « fofolé » ou « cauchemar », donc qui ne sont pas des personnages. Donc je voulais éviter un terme comme « characters ou personnages, parce que ça va au-delà. Et puis, French and Creole, français et créole, ça veut dire que ces contes ont été racontés et enregistrés, transcrits. C'était des contes en français ou en créole, tout simplement.
Parce Donc, c'est la langue.
C'est la langue, oui. Parce que ça va de la fin du 19e siècle jusqu'à 2012, le corpus.
Est-ce que tu connais des conteurs qui figurent dans ton livre?
Quelques-uns, oui, surtout. J'ai fait un petit peu de terrain moi-même aussi pour ce projet. Et on a des conteurs qui s'identifient comme Uma ou Cajun ou Créole, de Créole blanc ou Créole de couleur. Des créoles qui parlent le français, des cajuns qui parlent le créole. Donc, pour éviter toute cette confusion de, je sais pas,
des labellisations,
oui. Je pensais que ce qui était vraiment essentiel dans tout ce corpus, c'était les langues françaises et créoles, parce que il y a certains contes, honnêtement, qu'on peut retrouver en anglais, au Mississippi, en Alabama, qui sont à peu près les mêmes. Donc, qu'est-ce qui distingue ces contes? C'est le fait que ça soit en français, en créole. Donc, c'était l'élément essentiel en démarquant les contes que j'ai inclus dans le corpus.
On sait que parmi les populations fondatrices de la Louisiane, il y a d'un côté les Acadiens, la population acadienne, et d'un autre côté, il y a la population d'origine africaine. Je devrais dire les populations d'origine africaine. Je me demande si leurs expériences, qui ont pu être traumatiques et traumatisantes, je pense à la traite esclavagiste, je pense aussi à la déportation et au grand dérangement, à quel point ces expériences ou des traces de ces expériences se retrouvent dans les contes que tu étudies ou d'autres aspects de leur vie collective?
Ce n'est pas forcément évident en lisant un conte ou deux, quoi qu'on on remarque facilement la présence des personnages, souvent des animaux qui sont petits, comme le lapin par exemple, qui sont aussi rusés. Mais je pense que c'est vraiment en faisant des comparaisons d'une cinquantaine ou d'une centaine de variantes louisianaises, créoles et ouest-africaines qu'on voit comment un conte avec majoritairement la même structure, le même récit peut avoir une leçon totalement différente à la fin. Ou comment un personnage qui soit plutôt le méchant dans la tradition ouest-africaine deviendra le héros, le protagoniste dans le contexte louisianais. C'est logique quand on y pense parce que souvent dans les contes qui sont souvent racontés aux enfants, les contes sont véhiculaires des leçons qu'on veut transmettre. C'est une notion que j'emprunte de Paul Zumthor, un médiéviste suisse. Il appelle ça la fausse réitérabilité. Donc, c'est-à-dire, c'est l'idée qu'un conte va s'adapter ou va peut-être disparaître, mais il faut que ça demeure pertinent. Je pense que une expérience traumatisante comme l'esclavage, on peut bien imaginer comment ça va totalement changer le plan moral de beaucoup de contes africains, tout comme des contes européens. Je donne souvent l'exemple du travail. Combien de contes est-ce qu'on a entendu comme enfant avec la leçon que c'est important de bien travailler? Bien travailler, c'est important, ça mène à la réussite. Mais dans le contexte de l'esclavage, le travail, ça prend tout un autre sens parce que son travail est exploité. Le travail ne mène plus à la réussite pour quelqu'un qui est tenu dans une société esclavagiste. Donc, les structures peuvent rester les mêmes, mais la leçon doit changer parce que la façon dont on va survivre, ça ne vient pas du travail. Donc, il faut d'autres stratégies. Et ce n'est pas forcément une moralité alternative, mais c'est une, je dirais, comme Lawrence Levine dit dans son livre « Black Culture et Black Consciousness », que c'est une moralité plutôt temporaire qui est justifiée par les conditions. Donc, à cause des conditions dans lesquelles on se trouve, peut-être voler, mentir, voler de la nourriture, c'est une façon de survivre.
Donc, est-ce qu'il y a un exemple de ce phénomène de voler qui est justifié, du vol justifié?
Donc, il y a un conte en créole qu'on trouve dans la collection d'Alcée Fortier de 1894-95 qui s'appelle Tortue. Et c'est la tortue. Et c'est un exemple où on voit bien la métaphore de l'esclavage, je pense, parce qu'il s'agit d'un homme qui trouve une tortue dans le bayou. Il prend la tortue, il met la tortue dans une cage, dans sa maison. Donc, la tortue, tout comme lapin souvent, c'est un animal rusé qui essaie de s'échapper.
Un monsieur qui était vivant bord un bayou, trappait un gros tortue. Il l'a invité tout de suite ses amis pour dîner avec lui. Son petit garçon, quand il n'était pas là, courut côté la cage tortilla et tortille commençait à siffler. Quand tu siffles bien, dit Petilla. Oh, ça c'est pas rien. Ouvris la cage là et ta voix. Garçon là ouvrit la cage et tortille sifflait mieux qu'avant. Garçon là t'es enchanté. Mettez-moi en la plancher et ta voix, dit tortille là. Garçon là fait ça et tortille dansait et chantait. Oh, comme tu dansais et chantais bien, dit garçon là. Mettez-moi en bord bayou et ta voix, dit tortille. Garçon l'a mené lui au bord bayou et tortille l'a dansé et chanté. Tout d'un coup, lui disparaît dans de l'eau et garçon l'a commence à crier. Tortille levé dans millier bayou et lui dit: apprends pas fier mou, t'en pas connais.
On croit un animal qui est petit, qui n'est pas forcément fort au sens physique, mais il est rusé, il est malin, et donc il va y réussir, il va survivre comme ça. Il joue des tours, il commence à siffler. Et l'homme dit: comme t'en sifflais bien. Et il dit: ça c'est rien, si tu veux je peux chanter aussi. Et puis il dit qu'il peut danser et chanter. Et donc il dit: et si tu veux vraiment voir quelque chose, il faut juste me laisser sortir de la cage. Et donc dès qu'il le met au bord du bayou, la tortue s'évade comme ça. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, des contes d'animaux où l'animal est rusé. Mais on voit bien le fait que la tortue est emprisonnée, le système marche contre lui, évidemment. Donc la seule façon de survivre ou de s'échapper, c'est par la ruse.
Un peu plus tard, notre conversation s'est tournée vers la situation de l'ensemble des francophones louisianais depuis le début du 20e siècle. Comme on le sait bien, l'expérience de la population cadienne, qui s'identifie à la diaspora acadienne, a été marqué par la marginalisation socio-économique et la discrimination linguistique dans une société en pleine américanisation. Plusieurs contes jouent sur des stéréotypes parfois autodépréciatifs, tout en véhiculant des valeurs collectives et en transmettant des leçons adaptées à ce contexte.
Un personnage qui m'intéresse depuis le début de ce projet, c'est Jean le Sot. En France, on dit souvent Jean le Sot, mais en Louisiane, on entend plutôt Jean le Sot. Ça m'a frappé dès le début parce que j'avais d'abord trouvé le personnage qui était très répandu ici. C'était l'un des rares personnages que j'ai trouvé dans quasiment tous les répertoires que j'ai consultés ici. Il y avait des variations partout. Pas juste en France, mais dans toutes les colonies, les anciennes colonies. C'est vraiment, vraiment répandu.
C'est comme les contes de Jean le Sot, le paragon, on peut dire, de les idiots. Un idiot charmant, un idiot du passé, on voit les mêmes idiots aujourd'hui, on va les voir dans le futur. Et le cas, j'aime toujours parler C'est là que t'es pas tout là, ou j'en sais comment on l'appelle, il te craque, ou il y a un nez estropié de cervelle. Les Français l'appelaient Jean Sot, le Sot, parce que là on connaissait sa nature et son degré d'intelligence, là Jean Sot, Jean le Fou. Et malgré tout sa folerie, Jean Sot avait un air autour de lui qui le faisait entièrement différent de tous les autres jeunes gens du voisinage. Peut-être c'était ses yeux, on ne sait pas, peut-être sa manière à marcher.
Les versions modernes des contes de Jean Sot ont été documentées dans les années 1970 par le folkloriste Barry-Jean Ancelet. Ce pionnier des études louisianaises, l'un des mentors du professeur Rabelais, a effectué des enquêtes auprès de Revon Reed, auteur, animateur de radio et promoteur de l'identité cadienne dans la région de Mamou.
Mais dans presque tous les contes de Jean Sot, il est presque toujours un idiot. Mais en d'autres petits comptes, il y a voir qu'il est des fois fou malin, des fois fou farce, et quelquefois un fou distingué, c'est possible, existe cette expression. Mais toujours fou.
Un chapitre entier du livre de mon collègue est consacré au personnage de Jean Sot.
Un petit peu comme les comparaisons que j'ai faites avec des contes ouest-africains, et les homologues, des équivalents en Louisiane. J'ai fait à peu près la même chose avec Jean Sot et Jean Sot. J'ai vu en faisant beaucoup de comparaisons qu'il y avait des tendances. Jean Sot, c'est souvent un jeune homme qui vit avec sa mère. On ne parle jamais de son père. Et donc, il fait des bêtises. Soit il comprend mal, il va comprendre des ordres de sa mère littéralement. Par exemple, au lieu de tirer la vache, c'est-à-dire traire les vaches, en français, louisianais, on dit « tirer la vache ». Il va prendre sa carabine et il va tirer la vache. Il va tuer la vache avec le fusil. Donc, il comprend mal. Il essaie de bien faire, mais il comprend jamais exactement ce qu'il faut faire. C'est aussi un personnage intéressant parce qu'il est très compatissant. Il a beaucoup d'empathie envers la nature, envers les animaux. Et c'est souvent ça sa faute. Il soigne pas suffisamment bien la famille ou les besoins de la famille parce qu'il est trop gentil avec les animaux, avec la nature. Il y a un dessin que Jonathan Maillet a fait où il met du beurre dans les cracks dans la terre parce que la terre est gercée.
Et donc le sol aurait mal.
Oui. Finalement, comme avec la vache tirée, sa mère est toujours fâchée à la fin parce que il se trouve sans beurre ou sans lard ou sans vache. Oui, c'est un personnage intéressant parce que en étant trop gentil, ça finit toujours mal.
Jean Sot avait le cœur, par exemple, on compte beaucoup sensible. Il aimait tout le monde, il aimait tous les bétails, il aimait jusqu'à la nature, les arbres, les fleurs, la terre. Il avait un grand sentiment pour tout ce qui existait. Un jour, sa mère lui a donné un gros quart de beurre pour aller vendre à la boutique et traite ça pour des marchandises, des grosseries. Mais en allant là-bas, Jean Sot était très fier, bien associé avec la nature, il sifflait, il chantait, mais tout d'un coup, tandis qu'il traversait un marais sec, il a vu des craques dans la terre, des grosses craques. Et il croyait que c'était des gerçures, ça. Chap, en anglais. Alors, il a ouvert la jarre de beurre et il a commencé à graisser les crevasses dans un effort d'essayer de les guérir. Et il pleurait, il trouvait ça beaucoup mauvais que la terre était un peu gercée comme ça. Et quand tout le beurre a manqué, il s'est vite retourné chez sa mère pour d'autres. Après qu'il a compté qu'il y avait eu, naturellement, il n'a pas donné d'autres beurre, elle l'a bien fouetté pour ça, mais c'était trop tard. Un jour, ses parents ont marqué la vie.
Si j'ai bien compris pour toi, oui. Le personnage de Jean Sot ou de Jean Sot en Louisiane reflète des traits de personnalité qu'on pourrait associer à la population de souche acadienne, c'est un peu ça?
C'est un personnage qu'on trouve en Acadie, dans le Poitou et en Louisiane francophone. Les contes, pour rester dans le répertoire, ça doit garder une certaine pertinence pour la population. Et je trouve ça important, le fait que ça soit présent en France, surtout dans le Poitou et en Acadie et en Louisiane. Le fait de choisir un personnage comme Jean Sot est intéressant parce que il n'est pas fort et il n'est pas rusé non plus. Il est surtout gentil et compatissant, mais à l'extrême. Et même si en France on trouve des cas où Jean Sorte peut être une sorte de héros, on trouve ça en France avec Jean Sorte. Mais ça n'existe pas dans le répertoire louisianais. Il est juste sot à
il
chaque
est toujours,
fois.
Il est toujours perdant?
Il est toujours perdant, oui. Il y a des parallèles à faire, je pense, avec la discrimination linguistique et l'importance de la survie, l'importance des compétences de tous les jours, peut-être des compétences qui sont nécessaires dans un contexte difficile et rural. Il y a une sorte de valorisation des compétences nécessaires pour survivre et une mise en question de la valeur d'une éducation formelle, d'une institution ou de l'autorité.
C'est un personnage dont l'appréciation reflète une attitude anti-élitiste?
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Il est tantôt le mauvais exemple, c'est celui qu'il ne faut pas imiter, mais on trouve des contes où la leçon, c'est un peu le contraire. J'avais mentionné un conte tout à l'heure où il s'appelle Jean Sorte. C'est le type qui s'appelle, selon le catalogue en Thompson, la langue oubliée. C'est un jeune garçon qui quitte sa famille pour aller à l'école et qui revient en faisant semblant qu'il a oublié sa langue maternelle. Et ici, dans le contexte louisianais, c'était le français. Donc, il fait semblant qu'il sait seulement parler l'anglais. Et on trouve vraiment le même conte dans le Poitou aussi, alors que là-bas, c'est le Poitevin qui est la langue oubliée. Et le latin, ou un français très soutenu, qui est sa nouvelle langue primaire.
Et d'ambition sociale.
Oui, exactement. Et donc, je trouve ça vraiment poignant, le fait que ce personnage-là, c'est un Jean Sorte. Parce que son erreur, c'est de, je sais pas si on peut dire ça, péter plus haut de son... c'est quoi l'expression, péter plus haut que son cul, on entend ça en France. Mais c'est une fausse ambition de trahir sa communauté, de trahir sa langue, d'essayer de donner l'impression qu'on est autre chose.
Je pense que beaucoup de gens associent le folklore au passé, à ce qui soit a disparu ou qui est en voie de disparaître. Pourquoi s'intéresser à ce patrimoine oral?
Il y a plusieurs raisons. Premièrement, je dirais qu'il y a certaines figures qui ne sont pas disparues. Souvent, quand je parle du folklore louisianais, dans mes cours, par exemple, à l'université, il y a des étudiants qui connaissent encore Cushman, par exemple, ou le Rougarou.
Qui est le loup-garou en Louisiane.
Oui, une sorte de loup-garou.
Mais pas tout à fait, c'est ça?
Pas tout à fait. C'est rarement un loup, mais c'est une figure similaire. Le fofolet aussi. Ce sont des figures qui sont encore connues, même parmi certains jeunes. Une chose que je trouve très révélatrice dans la tradition orale, c'est ces vestiges, ces influences des groupes dont on parle très peu. Quand on parle du français ou du créole en Louisiane, par exemple, l'influence allemande ou espagnole ou antillaise ou autochtone. Et en faisant ce travail à ce niveau, vraiment en profondeur, y compris des contes et des figures vraiment méconnues, on voit ça. Je pense qu'on apprécie et on voit mieux la diversité des influences dans la francophonie louisianaise. Un bon exemple, c'est la Christine. C'est une figure de Noël et pour le jour de l'an. Pendant longtemps, c'était un peu mystérieux, la racine de ce mot.
Est-ce que c'est une femme qui s'appelle Christine?
Normalement, c'est une femme. Et on trouve des variations. J'ai entendu et j'ai enregistré Krishkin, Grishkin. Et ça se trouve surtout dans la paroisse Acadie, Évangeline, Saint-Landry, autour d'Arnaudville, Léonville. C'était surtout pour cette figure que j'ai fait un peu de terrain moi-même aussi. Mais ça vient de Christkind, ce qui est une figure très importante, même aujourd'hui, en Allemagne.
Qui est le Christ enfant, c'est ça?
C'est curieux. À la base, oui, parce que au début de la réforme, on voulait un lien plus direct avec Jésus. On voulait que ce soit Jésus qui apporte des cadeaux et non pas un saint, Saint-Nicolas. Donc ça a été un peu inventé à cette époque-là. Et même en Allemagne, avant que cette figure soit présente en Louisiane, c'était déjà devenu autre chose. C'était plutôt une femme. Et aujourd'hui, à Nuremberg, par exemple, on voit toujours, à chaque année, une femme de 16 ou 17 ans qui est élue, qui est choisie pour être la Crescente, qui se met sur un balcon et qui fait toute une adresse au marché de Noël. Donc c'est très présent en Allemagne. Même ça, plus précisément, je trouve que ça représente une immigration allemande très tôt en Louisiane. Mais ça a été comme francisé et intégré dans le folklore tellement tôt que c'est devenu encore autre chose. C'est devenu Grishkin ou Christine. Et je trouve ça beau, le fait de découvrir ou redécouvrir des vestiges de ces immigrations-là.
Nathan, je sais que dans un autre volet de tes recherches, tu t'intéresses beaucoup à la culture numérique, à la culture vernaculaire sur Internet, aux mimes ou aux mèmes, et à l'humour sur Internet. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que tu nous expliques sur le patrimoine oral et le folklore d'un côté et ce qu'on voit circuler sur Internet de l'autre côté?
Je vois des mèmes, oui, je vois des mèmes ou des mimes qui mentionnent le loup-garou, par exemple, de tirer les orteils pendant la nuit. J'ai certainement vu des mimes comme ça. Mais c'est très superficiel, je pense. Et c'est un peu ça qu'on voit aujourd'hui, je pense, quand on a ces références à ces figures de folklore. C'est souvent l'image ou l'essence de cette figure. Et c'est pas forcément un récit qui accompagne la figure. C'est qu'on sait que le loup-garou, c'est un être mystérieux qui fait peur et qui tire les orteils des enfants. Mais on va pas forcément raconter une histoire. Je dirais que c'est un peu la même chose avec les lutins, avec le cauchemar, avec Fofolé. Il y a une connaissance, mais c'est pas très profond.
Pourrais-tu nous dire un mot sur le travail que tu fais au département des langues modernes ici à UL? Est-ce que tu enseignes ce que tu expliques dans ton livre? Est-ce que ça fait partie de tes cours?
Oui, j'ai la chance d'enseigner des cours où je peux parler de ces projets-là. On a un programme très varié et dynamique. Donc, on a un bac, on va dire, bachelor's degree en français. Et on a aussi une maîtrise et un programme de doctorat aussi. Donc, j'ai la chance d'enseigner des cours où on discute du folklore à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau très avancé ou dans des cours interdisciplinaires que je donne parfois en anglais dans le programme des humanités.
Mais moi, je trouve tout ça très enrichissant et je te souhaite beaucoup de succès à la fois dans ton enseignement et dans les recherches à venir. Je suis très fier de te compter parmi mes proches collaborateurs et j'ai hâte à nos prochains échanges. Merci beaucoup, Nathan.
Merci à toi, Clint.
Acadiversité est une production du studio NS de l'Observatoire Nord-Sud de l'Université Sainte-Anne, laboratoire rattaché à la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales. Vous pouvez vous abonner à Acadiversité sur Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio et plusieurs autres plateformes. Cet épisode a été réalisé par moi-même, le professeur Clint Bruce. Je tiens à remercier Tiffany Guillory-Thomas pour sa lecture du conte Totti en créole louisianais, ainsi que le Centre d'études louisianaises de l'Université de Louisiane à Lafayette pour l'accès à l'enregistrement de Revon Reed. Notre chanson thème, 3 AM West End, est une composition de Status Q. Les morceaux de musique cadienne ont été interprétés par Sébastien Doll et Gilles Saunier, tandis que la provenance des autres extraits musicaux est indiquée sur la page web d'Acadiversité. Merci pour votre écoute et à la prochaine!